pour moi. Pourtant, tu sais que ce vent, il y a des cœurs brisés qui veulent de toi. Allons dans ton grand amour, oui, tu purifies sans retour des péchés que tu oublies pour toujours. Seigneur, c'est trop pour moi. Quand partout tu es le plus méprisé, c'est encore nous que tu veux aimer. Si quelqu'un
Seigneur, c'est trop grand pour moi.
Seigneur, c'est trop grand pour moi.
Bravo, bravo et merci. On n'aurait pas dit qu'il y avait des Américaines. Il y avait une Française et deux Américaines et elles ont chanté presque sans accent. Et donc, c'était très bien. Soyez tous et toutes les bienvenus donc pour cette dernière conférence liée à notre exposition sur la Bible. Il y a eu plusieurs qui ont eu lieu avant. Donc, une sur les énigmes de la Bible. L'autre, c'était les prophéties extraordinaires de la Bible et l'archéologie. Et puis aujourd'hui, la Bible est-elle toujours actuelle? Sachez que ces conférences ont été filmées et enregistrées. Elles seront donc, dans un proche avenir, disponibles sur le site de l'Église, www.ebbp.info, c'est-à-dire Église biblique baptiste de Paris. Également, je vous invite, si vous êtes ici, mercredi qui vient, nous recevons la chorale de l'Université Bob Jones, qui chantera ce mercredi à 20h, un concert gratuit, et ils chanteront des chants chrétiens en français et en anglais. Il y a des choristes et des musiciens, donc ce sera un concert complet, et ils sont très professionnels, et ce sera et en même temps très frais et chaleureux. Et ce sera donc encourageant. Donc, nous devons les loger mercredi soir et dimanche et jeudi soir. Et donc, si vous avez encore de la place chez vous, dites-le à mon épouse Gina. Je crois que c'est tout pour les annonces. Nous avons des réunions régulières tous les mercredis à 19h30, notre étude biblique. Et tous les dimanches à 11h, le culte. Donc ce mercredi, il n'y aura pas l'étude biblique puisqu'il y a le concert. Mais nous sommes ouverts pendant l'été et les réunions continuent sans interruption parce que il n'y a pas de vacances pour les âmes, pour le spirituel. On a toujours besoin d'entendre la parole de Dieu. Alors la Bible est-elle encore actuelle, ou bien la Bible est-elle dépassée? quand j'étais athée, la Bible pour moi n'avait strictement aucun intérêt. Je m'en suis passé pendant bien des années et je vivais sans même penser à Dieu ou à la Bible. Surtout que le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, a été écrit il y a environ 1900 ans. Ça fait très longtemps. Il y a 1900 ans, il n'avait pas l'électricité, il n'avait pas Facebook, il n'avait pas la télévision. Alors l'homme moderne se dit « À quoi bon la Bible ? Je ne vois pas ce qu'elle pourrait m'apporter. » Pour être plus sérieux, j'ai assisté récemment à une conférence d'un philosophe israélite de Suisse qui parlait sur la Bible. Il fait toute une série sur la Bible. Et pour introduire sa conférence, il dit « De toute façon, la Bible, ce n'est pas un livre historique. C'est un livre qui est juste bon pour l'exégèse. » C'est-à-dire, c'est un livre dans lequel on peut puiser un intérêt littéraire, on peut chercher une exégèse. Mais ce n'est même pas utile pour la société ni pour sa propre vie. C'est vraiment un vieux livre à mettre de côté. Dans notre exposition sur la Bible, on a une phrase de Voltaire, ce écrivain philosophe tellement admiré des Français. Voltaire a dit au début des années 1700, « Dans 100 ans, on ne trouvera plus la Bible que chez les antiquaires. » Et pourquoi il disait ça ? Parce que déjà à son époque, on pensait que la Bible était dépassée et qu'on n'avait plus besoin de la Bible et que finalement, 100 ans plus tard, la Bible n'aurait qu'un intérêt, c'est eh bien, pour les collectionneurs de vieux livres. Ah, voilà, c'est toujours bon d'avoir un vieux livre chez soi. On a d'ailleurs des vieilles Bibles qui ont 400 ans, vous vous rendez compte ? Mais est-ce que c'est le fait qu'elles aient 400 ans qui est intéressant ou est-ce que c'est son contenu actuel qui est intéressant ? Nous sommes 300 ans après Voltaire et la Bible a été traduite en 2454 langues. En 2008, la Bible était non seulement chez des antiquaires, mais elle a été distribuée à 382 millions d'exemplaires. Je pense que Voltaire était un peu orgueilleux quand il a fait cette déclaration. Il ne connaissait pas l'auteur de la Bible. Il avait lu la Bible, mais visiblement, il n'en mesurait pas l'impact. J'aimerais aussi vous citer l'influence de la Bible dans la langue française. Peu de Français le réalisent, mais il y a plein de mots que nous utilisons qui sont tirés de la Bible. J'ai une bonne liste là. À chaque jour suffit sa peine. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nul n'est prophète en son pays. Gagner son pain à la sueur de son front. Rendre à César ce qui est à César. Vanité des vanités. Porter sa croix. Le jugement de Salomon. Crêcher, la crèche. Tendre l'autre joue. Le bouc émissaire. Semer la zizanie. La zizanie, c'est un autre mot pour livrer. Je m'en lave les mains. C'est l'Apocalypse. On entend ça parfois. Ou alors, ce n'est pas parole d'évangile ce qu'il dit. Jeter la pierre, prêcher dans le désert, c'est la pêche miraculeuse. Notre pain quotidien, un bon samaritain, David contre Goliath, sauver des eaux, jeter ses perles au pourceau, connaître son chemin de Damas, un Capharnaüm, un tohu-bohu, vieux comme Mathusalem, vieux comme Hérode, pauvre comme Job, un Judas, un baiser de Judas aussi, le fruit défendu, la pomme d'Adam qui lui est restée en travers de la gorge. Je suis comme Thomas, je ne crois que ce que je vois. La paille et la poutre. Le retour de l'enfant prodigue, et non pas prodige. Tout est vanité. Les Jérémiades, du prophète Jérémie. Tendre l'autre joue, je l'ai dit. Se vendre pour un plat de lentilles. La genèse d'une chose. C'est la tour de Babel, ici. Quel déluge quand il pleut. Tout cela, et je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres, ce sont des expressions françaises. On a perdu l'origine biblique, pour beaucoup, hein, mais ceux qui connaissent la Bible en connaissent l'origine. S'il y a tant d'expressions, parce que j'ai voulu aller jusqu'au bout de la liste que moi je possédais, c'est bien que la Bible est encore une influence, mais sous-jacente. On ne s'en rend pas compte à quel point elle a marqué notre société. Pourquoi la Bible est-elle en fait toujours influente? C'est parce que l'humanité n'a pas changé. On découvre dans la Bible que les civilisations connaissent des cycles. Dans le livre de Daniel, hein, il est question de 4 empires qui vont dominer sur Israël. Et chaque fois, on voit ces empires qui montent vertigineusement en progrès militaire, progrès technique. Et puis, au bout d'un moment, à cause de la corruption morale, ces empires commencent à tomber en décadence, comme on dit, et à s'effondrer. Ça a été le cas de tous les grands empires. Nous, on connaît bien l'Empire grec, hein, qui était un empire extraordinaire, qui a influencé le monde entier par sa langue. Alexandre le Grand, qui n'a pas entendu parler d'Alexandre le Grand. Aujourd'hui, allez en Grèce. Tout ce qu'on voit, c'est que c'est un pays à moitié en faillite. Et ça attire bien les touristes. Il y a ces vestiges grandioses. Mais la nation grecque n'est plus l'empire grec du tout. Rome, c'est pareil. Mais il y a encore des cas plus terribles. Les Incas, cette civilisation qui dominait l'Amérique du Sud, hein, pendant des siècles, s'est effondrée sur elle-même d'ailleurs. Ils se sont entretués quasiment, ces Incas. Et cette civilisation qui était remplie d'or, de prêtres, de culture, de connaissances, eh bien, aujourd'hui, il y a encore des descendants des Incas. Si vous les croisez, vous n'allez pas les reconnaître, c'est certain, parce que ce sont des gens qui fument ou mâchent de la coca toute la journée. Quelquefois, ils vivent dans la forêt et ils sont un peu dégénérés parce qu'ils se marient entre eux. Vous ne reconnaissez plus du tout la grande civilisation Inca. Et la Bible parle de ces civilisations qui tombent et je crois, et je ne sais pas si vous partagez le même avis, que notre civilisation est sur la pente descendante. Nous avons cessé de monter et nous commençons à descendre, je parle surtout moralement et spirituellement. Et donc, la Bible s'adresse toujours à l'humanité, à l'homme, au cœur humain, et les hommes sont toujours les mêmes. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a des scooters et des ordinateurs qu'au fond, on n'est pas les mêmes. Nous avons toujours les mêmes tentations. Qu'est-ce qui attire le plus les êtres humains? C'est toujours le pouvoir, l'argent, la sexualité. Ce sont les 3 grands attracteurs, hein, surtout chez les hommes. Quels sont toujours nos problèmes? On a toujours des maladies. Même si la médecine est arrivée à un niveau jamais atteint, on est toujours en train de courir après les maladies. Regardez ces bactéries ultra résistantes. On en vint une et puis on a une autre qui arrive. On avait gagné la tuberculose et la voilà qui revient. Les maladies. La mort, surtout. L'homme est toujours mortel. Alors, l'espérance de vie a beaucoup augmenté depuis le Moyen-Âge. Mais l'espérance de vie était très élevée dans l'Antiquité, dans certains pays. Donc, on n'a pas forcément progressé là-dessus. Et surtout, ce n'est pas toujours une bénédiction de vivre très, très âgé. Et puis, l'homme a toujours la même fragilité. Même si nous avons des protections de toutes sortes, même si la musculature des hommes augmente avec les années, nous sommes toujours fragiles. Fragiles face aux circonstances, aux catastrophes, et aucune assurance, aucun État n'arrive pleinement à protéger son peuple. Et c'est pour ça que l'être humain, au fond de lui, a été créé avec la conscience d'un créateur et même la conscience de l'éternité. C'est dans l'Ecclésiaste qu'on trouve cette parole. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la conscience de l'éternité. Quand j'étais athée, je pensais à l'éternité, surtout à la vie après la mort. Et je me disais, quand même, notre vie est si courte, il doit y avoir quelque chose après. Et je me disais, qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de nous après? Comment revit-on? Je ne croyais pas à la réincarnation. Ça me paraissait très illogique. Et puis, je pense aussi à ceux qui ont connu des expériences de mort imminente. Hein, lorsqu'ils voient un tunnel, ils sont dans le coma dépassé, ils sont considérés comme morts parce que leur cœur s'est arrêté. Et puis, ils voient ce tunnel et cette lumière blanche extraordinaire. Il y a, c'est pour moi, même si ça peut être avoir une autre explication, mais je pense que c'est quand même une petite ouverture du rideau où Dieu nous dit « il y a quelque chose après ». D'ailleurs, ceux qui ont des expériences de mort imminente, parfois, voient leur propre corps. Ils disent hein, « je me suis élevé au-dessus de mon corps et je voyais les médecins et les chirurgiens s'affairer sur mon corps ». Ça doit être vraiment étrange comme sensation. Ça, c'est un petit élément qui peut montrer que l'âme n'est pas le corps, que nous habitons dans un corps, mais que nous sommes une âme, et que cette âme est éternelle, et qu'elle a été créée pour quelque chose. Alors la Bible est-elle encore actuelle? Est-elle encore utile? Oh oui, combien elle est utile! Je pourrais parler de l'utilité de la Bible pour les sociétés, même pour les gouvernants. Un certain nombre de présidents, dans les temps passés, avaient la Bible pour livre de chevet, parce qu'être président, ça veut dire prendre des décisions incroyablement importantes, lourdes, qui engagent des millions de gens, et ces présidents sentaient le besoin de consulter la Bible pour avoir la sagesse. Aujourd'hui, les présidents vont plutôt consulter les astrologues et les voyants, et c'est bien dommage, parce que les résultats ne sont pas du tout probants. La Bible a influencé même nos lois. Le fait de tuer son prochain est toujours un crime, partout. Mais ça, ça vient de la Bible. Le fait d'aimer son prochain, ça vient aussi de la Bible. On entend souvent les Français dire « tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc si tu essayes de faire ça, c'est déjà suffisant ». Alors bien sûr, ils oublient le premier verset là, qui dit, le premier commandement qui dit « tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même ». Alors ils enlèvent Dieu, parce qu'en France, on a un peu rejeté Dieu de notre société, et on garde « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais ce qu'on est en train de réaliser, c'est que si on n'aime pas Dieu, on va avoir beaucoup de mal à aimer son prochain, parce que notre prochain, c'est une créature de Dieu. Et si on n'aime pas le Créateur, on va avoir du mal à accepter la créature. Alors, à quoi sert la Bible si elle est actuelle? À quoi peut-elle bien servir? J'aimerais juste concentrer mon message, il y aurait beaucoup à dire, mais ce soir j'aimerais me concentrer sur trois choses. La Bible me dit d'où je viens, où aller maintenant et où irai-je dans l'avenir. D'où je viens, où aller, où irai-je? Si j'ai déjà ces trois choses, c'est énorme. La plupart des gens ne savent pas d'où ils viennent ni où ils iront. On a beau faire des recherches généalogiques, on n'arrive pas à remonter très loin. Alors, les savants nous disent, nous descendons de l'homme préhistorique, qui lui-même descend d'une espèce de singe, qui lui-même descend, etc., jusqu'à des créatures aquatiques. Mais en fait, la croyance en l'évolution a complètement rempli la pensée française, les lycées, les universités, mais finalement, elle a des effets terribles. Parce que quand vous croyez en une évolution par le hasard, quand vous enlevez Dieu de l'équation de la vie, votre vie est assez désespérante. Je vous donne un peu le tableau de quelqu'un qui croit en l'évolution, en tout cas qui est censé vraiment croire jusqu'au bout à l'évolution. Je suis le fruit du hasard. Je suis une poussière dans l'histoire de l'univers. Je suis un cousin évolué du chimpanzé. Et tout ce que je fais est finalement guidé par mon instinct animal. Je crois que nous ne venons de rien, par rien et pour rien. Je crois en la survie des plus forts, ce qu'on appelle, dans le langage populaire, la loi de la jungle, où il n'existe ni miséricorde, ni pitié pour les plus faibles. Ma vie n'a pas d'origine voulue. Personne ne m'a voulu, si ce n'est peut-être mes parents, et encore, quelquefois, on peut arriver par accident. Ma vie n'a pas d'autre sens que de survivre dans un milieu hostile. Ma vie n'a pas de but final. Elle se terminera brutalement avec la mort, sans espoir d'une autre vie consciente. Je crois aussi que certaines races sont plus évoluées que d'autres, et que le bien et le mal sont une invention des hommes. La seule loi qui vaille est celle de la survie. Ça, c'est la doctrine de l'évolution, et même la philosophie de l'évolution, qu'on est en train de pratiquer sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, chacun pour soi, la survie du plus fort. Tu es faible, alors je t'écrase et je te marche dessus pour monter plus haut. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'individualisme, tant de souffrance dans les familles, dans les couples, au travail, dans la société, en voiture, dans les transports en commun. C'est pour ça que l'amour du prochain n'est pas du tout pratiqué. Parce que l'amour du prochain vient de la Bible. Tandis que la théorie de l'évolution ne parle pas d'amour du prochain. Elle parle de la survie du plus fort. Par contre, si j'ai la foi en la Bible, si je crois qu'il y a un Dieu créateur, alors je fais le même développement. Je suis une créature unique, créée par amour, par le Créateur, avec un projet pour ma vie. Ma vie a un sens, et j'ai même une espérance après la mort, pourvu que je croie en Jésus-Christ. Je sais que la souffrance qui règne sur la terre provient en majeure partie de notre rébellion contre Dieu, mais que ce Dieu miséricordieux a envoyé son Fils, Jésus, pour ôter le mal de ma vie et du monde entier. Je sais que la vie est en fait un cadeau, et je désire la préserver plus que toute autre chose. Je sais que toutes les races proviennent d'un seul sang, d'Adam et Ève, que nous sommes tous sortis d'un même homme. Je ne me crois pas supérieur aux autres, mais Dieu me donne son amour pour mon prochain, qui est aussi une créature de Dieu. Je pratique le pardon, j'aide les plus faibles, les handicapés, comme les vieillards. Je protège la famille et je défends le bien selon ce que dit la Bible. Voilà celui qui croit au Dieu créateur et en la Bible. La société de quelqu'un comme ça sera beaucoup plus vivable et plaisante que la société de la survie du plus fort. Bien sûr, dans la survie du plus fort, on dit, mais on n'a pas de loi, pas d'interdit, pas de tabou. On fait ce qui nous plaît, nos instincts nous dirigent. Je ne sais pas si vous remarquez comme moi que toutes les semaines, on entend parler d'une jeune femme ou une jeune fille attaquée ou violée. Là, c'était hier, une joggeuse, encore une, qui a disparu. Comment expliquer tous ces cas? Est-ce que c'est seulement parce que les journaux en parlent? Non, c'est la loi de l'évolution. Tu laisses parler tes instincts. Et tes instincts les plus profonds, c'est quoi? C'est le viol, c'est la sexualité débridée, sans aucun arrêt, aucun tabou, justement. Et après, la société s'exclame en disant « C'est horrible, c'est pédophile, c'est violeur !» Mais il y a une schizophrénie, là. D'un côté, on dit « On encourage la sexualité à tout prix, les instincts, laissez exprimer vos pulsions. » Puis après, on dit « Non, les pulsions sont dangereuses !» Ça, c'est quand on n'a pas un absolu qui vous gouverne. Or, la Bible, justement, a cette utilité extraordinaire, c'est qu'elle nous révèle l'absolue vérité de Dieu. Ça, c'est le bien absolu, ça, c'est le mal. Et l'homme, à travers la Bible et à travers l'auteur de la Bible, qui est Dieu, peut être délivré de mauvaises pulsions, parce qu'il y a des pulsions vraiment mauvaises et dangereuses. La Bible nous dit d'où nous venons, mais elle nous dit aussi comment vivre dans la vie présente. En fait, il y a beaucoup qui ne pensent jamais à Dieu, et c'était mon cas, je vous l'ai dit, pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'ils découvrent à quel point ils sont faibles devant une circonstance. C'est-à-dire, tant que je me sens fort et que je maîtrise tout, je n'ai pas besoin de Dieu. Et c'est ce qui fait que dans nos pays occidentaux développés et riches, jusque-là, on a mis Dieu de côté parce qu'on s'est dit qu'on n'a plus besoin de lui. On a l'argent qui paye tout, la technologie. Finalement, on peut vivre sans Dieu. Si je veux me déplacer, je prends ma voiture, je prends l'avion, le train. Si je veux avoir un logement, eh bien, je me construis une maison. Voilà, je ne suis plus dépendant des éléments, la pluie, tout ça. L'agriculture est devenue tellement industrielle qu'on n'a presque plus besoin ni de soleil ni de pluie. Hein. Tout est fait industriellement, sauf le jour où on réalise qu'avec toute notre technologie, nous sommes très petits, très faibles, très fragiles. Je pense à quelqu'un, par exemple, qui se trouve face à l'éducation de ses enfants. Voilà, vous faites des enfants et vous vous dites, quelle éducation vais-je leur donner ? Si vous ne croyez pas en la Bible et en Dieu, vous n'avez aucune direction. C'est-à-dire, bon, il faut qu'ils se tiennent à peu près bien, il faut qu'ils réussissent dans la vie, donc qu'ils travaillent un peu. Mais peut-être que s'ils ne veulent pas travailler, il faut trouver autre chose. Pourquoi le travail, ce serait après tout la meilleure chose à faire ? S'ils pouvaient gagner de l'argent sans travailler, à la limite, ce ne serait pas mieux. D'ailleurs, c'est ce que nos instincts nous poussent à faire. Hein. Moins j'en fais et plus je gagne, mais c'est le paradis. Regardez les publicités hein, pour la loterie nationale. Vous voyez ces gens qui dépensent leur argent sur des yachts, etc. Qui ne rêvent pas hein, de gagner 30 millions d'euros et dire « je peux quitter mon travail, je peux aller voir mon patron et dire « bye bye ». Je peux aller voir mon banquier et dire « alors ?» Je vais changer de banque. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça, c'est le rêve de l'homme, l'homo occidentalus, hein, l'homo consumeritus, qui consomme à tout va. Et pourtant, tout ça nous laisse au fond vide, parce que ce n'est pas ça le vrai besoin de l'homme. Ce dont on a besoin, c'est quand on se trouve face à une maladie que les médecins ne peuvent pas résoudre. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes face à un danger de mort imminente. Qu'est-ce que vous faites ? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont appris à prier devant la mort. Ils n'avaient pas prié jusque-là, mais ils ont un accident de voiture ou ils ont un danger dans un avion, je ne sais pas, dans un train. D'un seul coup, je peux vous dire, ils se mettent à prier sérieusement. Pourquoi ? Parce que cette conscience de l'éternité que Dieu a placée, hein, se réveille soudain et dit « Hé, tu es une créature de Dieu,